Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue à l'émission Désordre mondial. Je suis votre arbitre, Rachel Marsden. Un candidat indépendant à la présidentielle française, le général Didier Tauzin, vient d'annoncer qu'il soutient une réactivation du service national obligatoire. En France, le président Jacques Chirac a aboli le service militaire obligatoire en 2001. Étant donné l'état balkanisé de la France et d'autres pays aujourd'hui, devrait-on y voir un retour? En revanche, la Russie est en train de renouer avec son programme de cadets militaires, Yunarmia, qui sera relancé à travers le pays plus tard cette année. L'objectif du programme est le développement d'une génération de citoyens qui traitent l'histoire avec soin, qui sont gentils et sensibles, prêts à construire un avenir pour eux-mêmes et pour leur pays. Ceci selon le général-colonel Alexandre Komadkov de l'armée russe. Les critiques ont très vite attaqué l'initiative comme une preuve de la militarisation russe. Le principe fondamental, apparemment, ça leur échappe. Pourquoi tout ce qui ressemble à la discipline et à la structure est perçu négativement? Pourquoi certaines personnes croient-ils que si les enfants ne gaspillent pas leur temps d'une manière non structurée, ils ne vivent pas correctement leur enfance? Les enfants qui grandissent sans structure finissent terriblement mal préparés pour la vie adulte. Les caractéristiques telles que la discipline, l'indépendance et l'automotivation ne sont pas tout simplement accordées aux gens quand ils atteignent un certain âge. Ils sont acquis, tout comme les mathématiques ou l'histoire. Mais comment les enfants sont-ils censés d'acquérir ces compétences de nos jours? En compétition constante avec les distractions allant des jeux de vidéo à la télé-réalité, aux médias sociaux, les enseignants ont déjà du mal à enseigner aux étudiants les sujets fondamentaux. Les activités parascolaires sont de plus en plus victimes de compression budgétaire aussi. C'est bien d'avoir des connaissances, mais beaucoup de gens qui les ont ne parviennent toujours pas à atteindre leur plein potentiel parce qu'ils n'ont jamais appris comment les appliquer d'une manière disciplinée. Voilà où pourrait rentrer une initiative telle que Yunarmia. Liée au ministère de la Défense de la Russie, Yunarmia enseigne aux enfants des compétences telles que l'utilisation et l'entretien d'un fusil. Naturellement, les russophobes paranoïaques ont des visions d'un déclenchement d'une armée, grande armée en marche. L'Union soviétique a pu être marxiste, c'est vrai, à l'époque, mais aujourd'hui, la Russie mène la lutte contre le marxisme culturel, c'est-à-dire la marque occidentale du marxisme, qui a saboté notre culture et le tissu social, avec une focalisation excessive sur le politiquement correct et le multiculturalisme. Le principal symptôme de cette maladie sociale est un manque de discipline, de structure et de normes. C'est très bien, par exemple, d'accueillir des nouveaux citoyens dans un pays, mais au lieu d'insister qu'ils adoptent nos valeurs et cultures, nous avons de plus en plus insisté sur notre adoption des valeurs et des cultures des sociétés que ces nouveaux arrivants fuient. En accueillant tous les caprices, nous diluons ce que nous représentons. En se déclarant en faveur de tout, nous sommes donc pour rien. Il y a une notion omniprésente dans les démocraties occidentales que les valeurs et les principes ne sont que pour les fascistes qui détestent la liberté. Si vous vivez dans un pays soi-disant libre, vous avez probablement été formé à garder la bouche fermée quand vous voyez une sorte de bizarrerie sociale ou culturelle. En Amérique et même ailleurs dans le monde, certains ont trouvé un champion dans le présumé candidat républicain, le gorille antipolitiquement correct Donald Trump, qui n'hésite pas à laisser échapper les vérités et briser les tabous dans le processus. Je me suis rendue à Moscou récemment et cela m'a rappelé de ma ville natale canadienne, la ville de Coquitlam, une banlieue près de Vancouver en Colombie-Britannique. Lors des années 80, c'était agréable, poli, calme, respectueuse. De tels endroits sont malheureusement de plus en plus rares. Paris, par contre, est considéré comme l'une des villes les plus libertines du monde entier. C'est un lieu où la morale personnelle, sexuelle, culturelle et sociale n'existe vraiment pas. Tout est permis. Mais ce qui est strictement interdit, c'est toute critique des pratiques culturelles non françaises. Là, vous êtes susceptible de vous retrouver devant un tribunal pénal accusé de paroles de haine. Les valeurs partagées sont les globules blancs d'une démocratie. Sans valeurs communes, la division cellulaire multiplie hors de contrôle et les cancers de la société métastasent. Nous voyons ceci maintenant avec des groupes d'intérêts spéciaux mettant en scène des manifestations violentes en France. Et si les jeunes dans les pays démocratiques se tenaient coude à coude avec leurs concitoyens, en apprenant le respect pour leur pays ainsi que les principes et les normes nécessaires pour réussir dans la vie? Mais ces enfants seraient indoctrinés par le gouvernement, certains diraient. Alors c'est mieux qu'ils soient indoctrinés par les gauchistes ou les djihadistes. Les objections au programme réanimé la jeunesse russe et du service national sont stupides. De tels programmes devraient être obligatoires partout. Et maintenant avec moi aujourd'hui pour discuter de ce sujet, Sam Levy est un expert militaire de sécurité israélien avec une vaste expérience traitant des scénarios complexes de sécurité, ainsi que la lutte contre le terrorisme, la protection des installations sensibles et la conception des systèmes de sécurité contre les menaces hostiles. Bienvenue à l'émission, Sam.
Merci, bonsoir.
Alors, vous avez, la raison pour laquelle je voulais vous accueillir dans le programme aujourd'hui pour discuter de ce concept de service national obligatoire, c'est que Israël, c'est un des, je dirais, un des seuls pays restants qui est démocratique et en même temps qui a un programme obligatoire de service national et de service militaire. Pourquoi est-ce que l'Israël garde ce programme en place et de quoi est-ce qu'il y a de valeur, à votre avis?
Bon, comme vous savez, en Israël, on n'a pas le choix dû à la situation dans laquelle on vit. Et clairement, le service militaire pour les hommes est de 3 ans et pour les femmes est de 2 ans. Et toute la survie du pays dépend de ça. Alors, on peut pas, malheureusement, c'est quelque chose qui peut pas être abandonné et qui doit être là pour la sécurité du pays et de nos citoyens.
Mais est-ce qu'il y a un risque? Parce que quand même, on sait bien que Israël, c'est au Moyen-Orient, que c'est possible sans doute qu'il y ait des infiltrations, qu'il y ait des gens qui viennent en Israël, qui semblent tout à fait normaux, mais peut-être qu'ils ont des plans autrement, disons, qui veulent menacer l'Israël et ils veulent utiliser l'entraînement militaire obligatoire comme moyen de le faire. Est-ce que ça arrive souvent, ça?
Non, ça n'arrive pas parce qu'on a des critères très stricts et parce qu'on a un appareil de sécurité où tous les gens sont contrôlés avant et c'est pas que tout d'un coup quelqu'un qui veut venir en Israël faire le service militaire, même s'il est juif, qu'il peut le faire automatiquement. Il y a des critères très stricts et clairement, avant d'être accepté à faire le service militaire, il faut que la personne soit acceptée. Et clairement, il y a des unités où c'est pas possible aussi, où il faut avoir un clearance de très haut niveau. Alors nous, on vit pas ce problème. C'est clair que toujours une personne qui n'est pas stable psychologiquement peut utiliser certaines choses qu'elle a apprises. Mais pendant 3 années, on a le temps aussi de voir qui a tendance et d'observer les soldats et de voir comment ils réagissent à des situations différentes. Et clairement, en Israël, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre parce qu'un soldat, il est tout de suite, après qu'il fait son basic training, après 3-4 mois, 5 mois, 6 mois, ça dépend de l'unité, il est déjà dans des scénarios réels et il n'y a pas du temps vraiment à perdre avec des choses qui ne sont pas, disons, réelles. Alors on observe tout de suite son caractère, on voit s'il y a une instabilité et on peut voir son comportement et malheureusement, il va être soumis à des scénarios réels pendant son service militaire de 3 ans.
Alors, que fait l'Israël avec les gens qui ne sont pas compétents pour contribuer d'une manière militaire lors de leur service? Est-ce qu'il y a un autre service national quelconque?
Oui, il y a un service national où tu peux être volontariat dans des hôpitaux, tu peux faire des services nationaux qui sont importants pour la société israélienne. Et c'est aussi, ça fait partie de l'appareil, c'est important. Il y a des gens que physiquement ne peuvent pas faire partie du service militaire, alors ils ont un rôle qui peut être très important aussi. Et clairement, on ne veut pas qu'une personne qui ne peut pas participer dans un service militaire, dans une unité de combat, ne soit pas quand même active. À part ça, il y a aussi la garde civile, que c'est un appareil pour qui veut être volontaire, où tu peux aider la police, tu peux faire plein d'activités qui sont, disons, importantes pour la sécurité du pays, mais qui ne sont pas, disons, des activités qui demandent que tu sois présent 3 années comme dans un service militaire obligatoire.
Et est-ce qu'il y a des avantages à ce genre de service obligatoire, le rendant obligatoire?
Non, moi dans ça, dans le service obligatoire, dans le contexte israélien, je vois seulement des avantages. Dans le contexte international, je pense qu'il peut avoir des désavantages. Dans ce qui concerne Israël, non, parce que ça fait, disons, c'est la défense du pays. Mm-hmm. Et même quand tu es jeune et tu as 10, 12 ans, tu sais que quand tu vas avoir 18 ans, tu vas aller au service militaire. C'est quelque chose que tu veux faire pour protéger le pays, parce que tu sais que c'est un rôle que chaque personne doit avoir. Et clairement, qui ne va pas à l'armée pour n'importe quelle raison, après il aura plus de difficultés à s'intégrer dans certaines fonctions du gouvernement et tout ça. Alors dans ce qui concerne le modèle israélien, c'est très positif, mais je pense que si on essaye de copier ça en Europe ou dans d'autres pays, dans d'autres continents, il peut avoir des désavantages.
À part les bénéfices sécuritaires globaux, est-ce qu'il y a des bénéfices, des avantages que l'individu va percer? En participant à un tel service obligatoire?
On voit ça, qu'on voit qu'un garçon qui arrive déjà une année après son service militaire, il est déjà très mûr, il a déjà vu beaucoup de scénarios réels, il y a un sens de responsabilité, il y a un sens de collectif vers l'humanité, de ne pas être égoïste, parce que quand tu es à l'armée, tu es dans des scénarios réels. Tu dois aider ton proche. Et alors il y a beaucoup d'éléments psychologiques et mentaux qu'on voit qu'un garçon qui finit le service militaire à 21 ans, il est très mûr et il est préparé pour la vie. Et ça va l'aider dans n'importe quel secteur, même s'il ne va pas travailler dans un secteur militaire ou de sécurité.
Et dans les autres pays, on sait que ici en France, par exemple, Jacques Chirac a aboli le système de service militaire obligatoire il y a environ 15-16 ans. Est-ce que vous croyez qu'il y avait un changement par rapport au tissu culturel de la société française à ce moment-là?
Moi, je pense que le service militaire ne doit pas être quelque chose qui sert un pays seulement pour des opérations hors du pays que ce pays peut avoir. Je vois le service militaire comme quelque chose d'important aussi pour la sécurité interne du pays. Si on aurait su il y a 15 ans le problème et les problèmes que certains pays en Europe ont aujourd'hui avec le terrorisme, c'est clair que le service militaire aurait pu prévenir certains scénarios et ça aurait renforcé la société française dans tout ce qui concerne la préparation pour des attentats ou la préparation pour mieux réagir à des attentats. Mais si un service militaire est seulement un appareil, si les intérêts de ce pays sont seulement hors du pays, si c'est pour une opération au Tchad ou pour n'importe quoi, alors ça ne devient pas un appareil qui est efficace pour la sécurité, pour gérer des situations de terrorisme. Ça devient quelque chose seulement de militaire. Le modèle en Israël, c'est que l'armée et le profil du soldat, c'est très important aussi pour gérer des scénarios domestiques. Et clairement, après, c'est plus facile pour un citoyen d'être beaucoup plus sensible s'il y a un objet de suspect ou s'il y a un comportement qui a l'air illogique, au pouvoir aider la police localement parce que tu vois que quelqu'un se comporte d'une façon étrange. C'est clair qu'il y a un background militaire et la fée va pouvoir être beaucoup plus efficace et va pouvoir aider aussi la police. Et ça, c'est très important.
Alors, maintenant, on est en train de voir monter un grand événement ici en France. D'ici quelques jours, c'est le concours de football Euro 2016. Et il y a bien sûr des risques sécuritaires. Comment est-ce qu'une population entraînée grâce à un service national obligatoire pourrait agir, réagir, contribuer à la sécurité nationale lors d'un tel événement?
Non, la police et l'armée ne peuvent pas être partout. Quand il y a la population qui est sensible et qui sait observer, sait comprendre, sait voir des choses illogiques, c'est comme si la police a une assistance directement sur le terrain. Ça veut dire la meilleure source de renseignement, c'est la propre population qui est partout, qui voit, qui peut communiquer s'il y a quelque chose qui n'a pas l'air correct, et que dans beaucoup de cas peut aussi agir sur place, parce que clairement, si le citoyen n'agit pas sur place, quand la police va arriver, ça va déjà être trop tard. Alors c'est très important pour la police de savoir qu'il y a une population qui l'aide et qui peut l'assister et qui est là sur le terrain, partout, pour donner, disons, un traitement s'il y a un problème. Et dans un championnat comme ce championnat européen de football, c'est clair que le problème, c'est pas seulement la sécurité des stades, mais c'est seulement aussi, c'est protéger aussi les intérêts français dans des restaurants, dans des discothèques, dans des centres commerciaux, dans des hôpitaux, dans des aéroports. Sans la population, c'est très difficile.
Et aujourd'hui, à votre avis, que devrait être la priorité du gouvernement français lors de cet événement de foot?
La priorité, à mon avis, devrait être, à part clairement toute la partie des renseignements et de pouvoir avoir des renseignements en temps réel, de prendre la sécurité, de la mettre plus à l'extérieur et de ne pas adopter une sécurité défensive, mais une sécurité plus offensive, être un peu plus proactive, organiser la sécurité de façon que c'est possible d'identifier le problème le plus loin possible de l'événement. Ça peut être à 500 mètres, comme à 2 km, comme même à 5 km. Et ça permet de minimiser et clairement les gens qui vont mourir s'il y a un attentat, mais ça permet aussi de traiter le problème dans la phase initiale. Et clairement, comme on a vu dans les attentats à Paris, à Bruxelles, le plus vite, si tu ne peux pas prévenir, au moins le plus vite tu veux réagir pour gérer mieux l'événement et tout ce qui a à voir avec un attentat hostile. Clairement, si la sécurité est seulement à l'intérieur, elle n'est pas tirée à l'extérieur assez d'une façon intelligente, et c'est comme si on invite le problème à entrer dedans. Et après, traiter d'un problème quand il est déjà dedans chez toi à la maison, c'est beaucoup plus difficile.
Et la population française, lors de cet événement-là, il y a une attitude un peu paranoïaque qui règne toujours à Paris depuis les attentats de novembre dernier. Et maintenant, étant donné qu'il y a un risque réel d'attentat lors de cet événement-ci, du mois prochain, quels sont les comportements qui devraient avertir les citoyens lorsqu'ils sont en train d'observer d'une manière assez décontractée tout ce qui se passe dans la rue, autour de la ville, lors de cet événement?
Premièrement, je pense que la population française doit faire les activités qui aident la police 365 jours par an. C'est pas parce qu'il y a un événement maintenant de football qu'il faut faire quelque chose en plus. Il faut le faire tout le temps, parce que clairement, l'attention maintenant est sur cet événement. Mais quand cet événement va finir, on ne peut pas retourner à la routine et ne pas faire des choses qu'on fait toujours. Ce n'est pas automatique ni instinctif aussi pour un citoyen de faire certaines activités seulement pendant une période et ne pas le faire toute l'année. Ça doit devenir quelque chose de normal. C'est-à-dire le citoyen français doit être capable de trouver l'irrégularité dans la régularité. Ça veut dire qu'il doit savoir comment observer, il doit savoir comment comprendre qu'est-ce que c'est un comportement normatif, qu'est-ce que c'est un comportement qui n'est pas normal. La façon dans laquelle les terroristes se comportent, comment ils planifient des attentats, comment ils se comportent, et tout ça, ça porte le citoyen à être déjà beaucoup plus proactif, à observer et à comprendre. Et au cas où certains signes existent, clairement, alors, en ayant l'appui du gouvernement, clairement, le citoyen se sent confortable de communiquer et dans certains cas d'agir. Parce que clairement, si un citoyen qui observe et voit quelque chose de problématique, il devrait, dans cette situation, s'il ne peut pas communiquer, au moins gérer et prévenir l'attentat. À moi, ce qui me préoccupe, c'est deux choses. Un, que ces citoyens n'ont pas reçu, disons, cet entraînement pour faire ça. Et la deuxième chose, c'est au cas où ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce qu'ils auront peur au niveau légal d'agir et de faire quelque chose, ou est-ce qu'ils se sentiront que le gouvernement les appuie et qu'ils ont, disons, un support pour réagir à quelque chose qu'ils observent?
Mais vous savez, Sam, Puisqu'il n'y a pas de service national obligatoire militaire ici en France, ils ont décidé de remplacer, j'imagine, tout ça avec des grandes affiches dans les métros parisiens, dans les stations de RER, qui sont sponsorisées par le gouvernement français, qui expliquent avec des diagrammes et l'aide des dessins des personnes que dès qu'il y a un risque d'attentat, il faut fuir. Il faut courir dans l'autre direction. Et c'est la priorité. Bon. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la stratégie contre-terroriste, ou je dirais anti-terroriste, du gouvernement français par rapport à sa population?
Non, si je dis à un citoyen de s'enfuir, je suis en train de lui dire, je suis en train de le rendre impotent. Alors, je pense que non. Je pense que le citoyen français doit recevoir une méthodologie dans laquelle il doit savoir comment observer, comment communiquer, dans certains cas aussi comment réagir, et il doit avoir l'appui. C'est clair que dans certains cas, il faut s'enfuir, mais pas toujours tu as la possibilité de t'enfuir. Quand tu te trouves dans un endroit et tu vois à 10 mètres quelqu'un qui va maintenant commencer à faire quelque chose, tu peux pas toujours t'enfuir. Et ça serait bien que le citoyen ait la capacité de comprendre qu'il y a quelque chose d'irrégulier qui se passe, et au cas où il ne peut pas communiquer ni s'enfuir, qu'il décide de faire quelque chose pour le bien-être, pour son bien-être et pour les gens qui sont dans son entourage. Si un citoyen ne sent pas ça, alors il va devenir de plus en plus indifférent. Et dans le terrorisme, on ne peut pas que la société soit indifférente. Les citoyens sont partis du problème, mais ils sont partis de la solution au problème.
Mais je pense que c'est pas vraiment un instinct naturel pour la plupart des gens de se battre quand ils se sentent menacés. Comment est-ce qu'on peut contrer tout ça?
Non, on sait que quand quelqu'un se sent menacé, s'il sait qu'il se sent menacé parce qu'il y a une raison objective, il a été entraîné pour ça, même s'il s'enfuit, il va communiquer. Et s'il comprend qu'il ne peut pas s'enfuir, que sa vie est en danger, on sait que d'une façon instinctive, il va quand même faire quelque chose. Et ça, c'est déjà beaucoup. Maintenant, si on enlève ces instruments à un citoyen, on lui dit « enfuis-toi ». Alors clairement, toute la priorité, c'est de ne pas observer parce que tu t'enfuis. À la moindre des choses, tu vas t'enfuir. Et c'est pas toujours possible. Comment est-ce que les gens qui étaient dans les alentours de l'aéroport de Bruxelles, dans le terminal, comment ils auraient pu s'enfuir? Comment est-ce que les gens à Paris, où il y a eu les attentats, auraient pu s'enfuir toujours? Ils auraient pas pu s'enfuir. Ça, c'est pas toujours possible. Alors, dire ça comme priorité, je suis pas d'accord, et c'est pas rendre les citoyens partie de la solution. Je pense qu'en Europe, on va comprendre de plus en plus quand il y aura ces attentats que les citoyens font partie de la solution. Ils doivent aider, il faut leur donner un know-how pour qu'ils puissent communiquer et réagir. C'est très, très important.
Et maintenant, dans la société française, ça a progressé depuis 16 ans. La démographie a changé beaucoup. On est en train de voir de plus en plus de migrants provenant des pays qui sont sponsors du terrorisme, par exemple. Est-ce que c'est logique de monter un programme de service militaire national tel que le général Didier Tauzin, qui est maintenant un candidat à la présidentielle française indépendant, veut proposer?
La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'entraînement militaire n'a rien à voir avec l'entraînement de sécurité d'antiterrorisme. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire seulement des unités très spécialisées en antiterrorisme, qui sont des unités militaires, reçoivent un entraînement qu'ils peuvent, disons, appliquer quand ils se trouvent dans les villes. L'entraînement militaire conventionnel, c'est un entraînement militaire pour combattre contre une autre armée. Alors la présence de militaires dans les rues de Paris ou de Lyon ou de Marseille, ça peut créer peut-être un peu de peur dans les yeux des terroristes, mais c'est pas une solution au niveau opérationnel, à moins qu'il y ait un programme militaire pour des unités qui vont être placées dans les centres urbains et qui ont suivi un entraînement antiterroriste, mais pas un entraînement seulement militaire. Parce qu'un militaire qui se trouve dans un centre commercial ou se trouve dans un scénario compliqué de terrorisme va avoir besoin de méthodologie et de tactique spécifique pour ça. Il ne pourra pas automatiquement utiliser son entraînement militaire. Alors il faut comprendre que si on veut que l'armée ou que le service militaire soit obligatoire pour créer, pour que chaque citoyen ait la capacité de s'entraîner, de faire partie d'un service militaire, c'est bien. Mais il faut que les contenus du service militaire, si on veut après que ces gens puissent faire quelque chose, ça doit être un service militaire qui a comme objectif aussi le combat contre le terrorisme.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit quasiment jamais les batailles conventionnelles de armée contre armée, deuxième génération.
C'est tout asymétrique, exactement.
Oui, c'est complètement asymétrique. Et c'est quoi exactement la différence entre le anti-terrorisme et le contre-terrorisme? On entend souvent les deux termes.
Oui, on entend souvent. Le contre-terrorisme, c'est toutes les activités qu'un pays, un gouvernement prend pour prévenir qu'un attentat arrive. Et ça inclut tout ce qu'on fait avant que quelque chose se passe. Et c'est normalement une activité pas seulement à l'intérieur du pays, mais c'est une activité aussi internationale que tu fais hors du pays, clairement avec les services de renseignement et d'autres unités. Le combat antiterrorisme, c'est ce qu'on fait une fois qu'un attentat a commencé, ce que des unités spécifiques comme le GIGN chez vous font pour le RAID, pour réagir à quelque chose qui a déjà commencé. Un pays qui veut se protéger contre des attentats de terrorisme doit investir dans ces deux secteurs, mais ces deux secteurs doivent parler la même langue, parce que on peut pas séparer les deux choses. Ça veut dire on doit mettre priorité sur ces deux choses, et clairement l'antiterrorisme vient comme activité pour soutenir si le contre-terrorisme n'a pas pu, disons, avoir succès dans ces opérations. Clairement, si moi je n'arrive pas à contrôler les gens qui arrivent en France, ou j'arrive pas à contrôler la population de savoir qu'est-ce que chaque personne vient faire en France, ou certaines personnes qui se trouvent en France et sont en train, disons, de planifier certains attentats, quand ces personnes attaquent ou commencent déjà une attaque terroristique, alors c'est les unités antiterroristes qui doivent maintenant réagir pour minimiser les gens qui vont mourir ou les gens qui vont être, disons, blessés. Ça veut dire que l'antiterrorisme, c'est normalement quelque chose où les pays européens donnent plus de priorité du contre-terrorisme.
Est-ce que vous croyez que, à cet égard, les services français sont suffisants en ce moment, ou est-ce qu'il manque de l'entraînement, est-ce qu'il manque des compétences?
Je pense pas que c'est un problème ni de ressources humaines ni de budget. Je pense que il faut prendre une décision. Est-ce qu'on veut vraiment combattre contre le terrorisme? Si la réponse est oui, il faut que le système, le nouveau apparat, prenne en considération les citoyens. Mmh. Les citoyens doivent être actifs dans ça. Il faut peut-être créer une garde civile qui c'est des volontariats, qui reçoivent un entraînement spécifique pour aider la police, qui patrouillent les villes, qui font des activités visibles et en même temps clandestines, et arrivent à être où la police ne peut pas être. Et quand on prend une décision comme ça, normalement cette décision apporte des résultats. Mais il faut la prendre maintenant. Il fallait la prendre déjà il y a 3, 4, 5, 10 ans.
Oui, il y a longtemps.
Il y a très longtemps. Si on prend, chaque jour qu'on prend pas ces décisions, même quand on la prend, ça va déjà être moins efficace. Oui. Ça veut dire qu'on perd l'efficacité déjà de la décision.
Oui. Sam Levy...
Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a un retard. Il y a un retard dans prendre cette décision.
Oui. Sam Levy, expert militaire de sécurité israélien avec une vaste expérience traitant des scénarios complexes de sécurité. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pourrez réécouter l'émission à tout moment sur désordremondial.com ou sputniknews.com.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.